Bonjour, monsieur le secrétaire général.
Bonjour, monsieur Souma.
Pour nos chers visiteurs du site de Lithieux, nous avons aujourd'hui un podcast réalisé avec le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire de la décentralisation, qui est le numéro 2 du territoire et qui vraiment est un cadre chevronné de la décentralisation. À ce titre, monsieur le secrétaire général, je voudrais que vous présentiez quelles sont vos attributions.
Bon, merci, monsieur Souma. Je réponds au nom de Yamo Likwande. Je suis administrateur civil, titulaire d'un doctorat troisième cycle en sciences agroéconomie. Je suis spécialisé sur les questions de décentralisation et de développement local. Naturellement, depuis 2008, j'assume cette fonction de secrétaire général, d'abord du ministère de la décentralisation et du développement local, et depuis 2010, du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. J'ai une fonction essentiellement technique. J'assure la coordination des activités de l'ensemble des services du département, y compris les services déconcentrés et décentralisés. Je coordonne l'élaboration de la politique sectorielle, du plan stratégique pluriannuel et du PTBA du département. Je programme, j'anime, je coordonne, je suis, j'élabore et je contrôle les activités des différents services du département. Naturellement, j'ai aussi la responsabilité d'assurer sur le plan technique la coordination et la cohérence des activités de notre département avec les autres départements sectoriels. Naturellement, j'assure l'intérim de M. le ministre en cas d'empêchement ou d'absence. En tant qu'autorité administrative du département, à l'exclusion des attributions susceptibles d'engager la responsabilité du ministre.
Merci, monsieur le général. La deuxième question serait la suivante. Quelles sont vos relations avec les entreprises extractives opérant en Guinée pour le développement des collectivités à la base?
C'est une bonne question. Je vous ai dit que nous sommes le département qui assure la tutelle de toutes les collectivités locales en Guinée. Nous avons pour mission de concevoir, d'élaborer et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de décentralisation et d'administration du territoire. Nous avons donc la responsabilité d'aider les collectivités locales à répondre aux besoins des populations qu'elles sont censées gérer dans le cadre de leur mission. Donc, quand vous me demandez quelles sont les relations que nous avons avec les entreprises extractives, ce sont des relations qui sont basées sur la recherche du comment favoriser le développement local, notamment en lien avec les ressources minières très importantes dont dispose le pays, qui accueille des projets d'envergure. Autrement dit, comment les sociétés minières peuvent s'inscrire dans le cadre d'un accompagnement durable des collectivités locales pour que celles-ci soient responsabilisées, je dis bien responsabilisées, pas impliquées, parce que c'est facile de dire qu'on implique les collectivités, les responsabiliser. Naturellement, nous avons la responsabilité de faire en sorte que les relations entre les sociétés minières et les populations hôtes s'améliorent et permettent aux sociétés de travailler dans la sérénité, dans la quiétude, pour apporter ce qu'elles doivent apporter à le sort des collectivités locales.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Alors, vous utilisez quels moyens pour booster ce développement des collectivités?
Bon, quels moyens? Je dois dire que là aussi, c'est une question importante. Et je dois avouer que notre pays est l'un des rares pays de la sous-région qui s'est attaqué à la problématique du développement économique local dans les zones extractives de la plus belle des manières. Il y a eu deux initiatives très importantes qui ont été prises par le gouvernement. C'est d'abord la création de l'ANAFIC, le Fonds national de développement local, qui est géré par l'Agence nationale de financement des collectivités. Ce fonds, comme on le sait, permet d'apporter un appui budgétaire à l'ensemble des collectivités locales de la Guinée, aussi bien celles qui abritent les collectivités et les zones minières que celles qui sont en dehors des zones minières.
Oui.
C'est une particularité, c'est-à-dire que on évite le déséquilibre dans le développement parce que toutes les communes n'ont pas le même potentiel. Il y en a qui sont en dehors des zones minières, il y en a qui sont très très pauvres, très enclavés.
Oui.
Et je dois dire que il a été vraiment conséquent pour le gouvernement d'avoir réfléchi dans le nouveau code minier à l'inscription, à la prise en compte de 15% de droits et taxes des exploitations minières pour abonder le Fonds national de développement local qui couvre l'ensemble des communes de Guinée. On en a 342. Je dois dire que l'ANAFIC actuellement, parce qu'il faut le préciser, intervient dans les 337 communes de l'intérieur, en dehors des 5 communes de Conakry, parce qu'il y a un autre fonds qui est en gestation spécifiquement pour les communes de Conakry. Donc l'ensemble de ces communes accède à ce fonds par un système de péréquation.
Oui.
En dehors de l'ANAFIC, l'ANAFIC, je le précise, est sous la tutelle de notre département. C'est un autre département qui a conçu, qui a élaboré, qui a fait le montage de l'ANAFIC, qui est sous la tutelle de notre département.
Oui.
En dehors de l'ANAFIC, naturellement, il y a le FODEL. J'ai dit que c'est une particularité en Guinée, c'est-à-dire que il y a l'ANAFIC qui gère le Fonds national de développement local auquel toutes les communes accèdent, mais il y a le FODEL spécifiquement mis en place pour financer les actions dans les zones impactées. Donc mener des activités génératrices de revenus dans les zones impactées. Donc voilà un peu ça, en termes de sources de financement des collectivités. Ça, ce sont les sources issues des recettes minières. Mais en dehors de ces sources issues de recettes minières, il y a d'autres subventions de l'État pour ces collectivités locales sur le BND. Il y a aussi des sources de financement sectoriel. C'est-à-dire que normalement, les sectoriels doivent, en fonction des compétences qui sont transférées, essayer de transférer les ressources financières conséquentes aux collectivités locales. Il y a aussi des sources de financement extérieur. C'est le FINEX. Nous avons, dans notre cas, exploré et ça a beaucoup réussi, le domaine de la coopération décentralisée. Voilà un peu en termes de moyens utilisés par le département, les moyens que nous visons pour booster le développement des collectivités locales.
Merci, Général. Voici donc autant de fonds mis à la disposition des collectivités. Donc, puisque tout le monde n'est pas sain, il y a un problème de contrôle qui se pose. Donc, quels sont les moyens de contrôle que votre département a mis en place pour assurer la bonne gestion de tous ces moyens financiers que l'État a mis à la disposition des communes pour leur développement?
C'est une question fondamentale, parce que il y a le fait qu'il faut mobiliser les ressources pour les collectivités locales, mais il y a aussi et surtout la nécessité de suivre l'utilisation adéquate de ces ressources en faveur des collectivités locales. Nous avons des inspections régulières au niveau des services centraux. Nous avons au sein de notre département une inspection générale qui a produit des outils d'appui conseil, des outils d'accompagnement, mais des outils aussi de contrôle, de suivi et de contrôle des collectivités locales. Donc, à partir du niveau central, l'inspection générale mène régulièrement des missions de suivi sur le terrain. Mais en dehors de ce service d'inspection générale, il y a au niveau de chaque région, au niveau de chaque préfecture, des structures de suivi et de contrôle. Et aussi, l'ensemble des mécanismes qui ont été mis en place, j'ai parlé des instruments mis en place pour financer les collectivités, j'ai parlé d'ANAFIC, j'ai parlé de FODEL, qui disposent de manuels de procédures comptables et financières. Et disposent aussi de leur structure de suivi, de contrôle et d'accompagnement. Donc, je dois préciser aussi que nous sommes membres de l'ITIE, qui participe à la transparence dans la gestion des ressources mises à la disposition des collectivités locales.
Merci beaucoup, Général. Et puisque dans toute activité, il y a des difficultés, je voudrais savoir quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans ce travail de développement des collectivités, à part les formations perpétuelles pour les nouveaux élus locaux. Parce que chaque fois qu'il y a un nouvel élu qui n'est pas formé, vous êtes obligé de reprendre la formation. Et quelles sont donc ces difficultés que vous rencontrez?
Ça, c'est une première difficulté. Oui. Et vous avez bien fait de le souligner, parce que, naturellement, à partir de la première génération des élus au niveau des collectivités, on s'est vite aperçu qu'il y avait un taux d'analphabétisme élevé.
Oui.
Mais en dehors de cette cascade de formation pour les élus, nous avons, en termes de difficultés, la pluralité des acteurs sur le terrain. Il y a une mosaïque d'acteurs sur le terrain.
Voilà.
Et il y a beaucoup d'intervenants.
Il y a un problème d'harmonisation.
Il y a un problème d'harmonisation sur le terrain.
Oui.
Ça crée beaucoup de problèmes.
Oui.
Cette mosaïque d'intervenants,
oui,
qui chacun vient avec sa marque, avec son drapeau,
oui,
avec son approche,
oui,
crée beaucoup plus de problèmes aux collectivités qui n'apportent de solutions.
Oui.
Ensuite, il y a que, il faut le reconnaître, les compétences techniques sont limitées au niveau des collectivités locales,
oui,
en termes de ressources humaines.
Oui.
Donc voilà un peu quelques difficultés sur lesquelles nous travaillons pour trouver la bonne porte de sortie, pour que ces collectivités répondent aux attentes des populations.
Donc, dans le cadre, qu'est-ce que vous avez prévu pour l'harmonisation de ces interventions, pour ne pas qu'il y ait double intervention dans le même domaine?
Vous savez, nous avons prévu quand même mettre en application l'une des dispositions légales du Code des collectivités locales. C'est-à-dire que tout intervenant au niveau d'une collectivité locale, je parle de commune, puisque nous n'avons qu'un seul niveau de décentralisation en Guinée, c'est la commune.
C'est la commune.
Donc, tout intervenant au niveau d'une commune doit s'inscrire dans le cadre du plan de développement local élaboré par la commune.
Merci.
Le plan de développement local, comme dispose le code des collectivités locales, est le cadre unique et la principale porte d'entrée de toute intervention au niveau d'une commune.
Merci.
Il faudrait que les intervenants, quelle que soit leur volonté, quelles que soient les ressources qu'elles doivent mobiliser, s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan de développement local. Et le plan de développement local de la commune est conçu sur la base d'un diagnostic participatif qui touche l'ensemble des couches de la collectivité et qui touche l'ensemble des ressources mobilisables par la collectivité, ressources propres, ressources extérieures, et qui amène la collectivité, puisque le plan de développement local généralement est conçu pour 5 ans, la collectivité chaque année tire de ce plan de développement local un programme annuel d'investissement. Programme annuel d'investissement qui est bâti sur les possibilités réelles qu'offre la commune dans le cadre des possibilités de financement, mais aussi qui est bâti sur les priorités des priorités en termes de besoins des communautés.
Merci. Puisque déjà vous avez parlé de l'ITU, je ne sais pas si vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'importance de l'ITU pour vous.
Bon, l'ITU, pour moi, est très important pour notre département. Aussi bien pour notre département que pour l'ensemble des départements qui sont préoccupés par l'amélioration de l'utilisation des ressources mobilisées en faveur des populations locales. L'ITE permet de déterminer, d'une part, ce que les sociétés paient aux communautés et ce que les communautés reçoivent également de ces dernières. Vous savez, la transparence est un élément de mobilisation. La transparence permet de mettre les populations en confiance, les bénéficiaires en confiance, mais aussi permet à ceux qui donnent, aux donateurs, de savoir que ce qu'ils donnent va effectivement au bon endroit et utilisé à bon escient. Nous pensons que l'ITE est très important et permet réellement de booster, de recréer la confiance entre les différents acteurs sur le terrain.
Et diminuer les conflits.
Et diminuer les conflits, parce que c'est très important. Nous savons qu'autour des sociétés minières, c'est toujours des conflits permanents. Et l'ITE intervient pour aplanir ces conflits et donner les meilleures solutions et les meilleurs espoirs possibles pour que la cohabitation entre sociétés et populations riveraines se passe dans les meilleures conditions possibles.
Merci, monsieur le général. Et à ce titre, quelle relation votre département compte développer dans le futur avec l'ITE?
Bon, dans le futur avec l'ITE, je dois préciser que au sein du comité de pilotage de l'ITIE, nous sommes membres.
Oui.
Nous avons un de nos cadres qui est membre du comité de pilotage de l'ITIE. Nous avons l'obligation de faciliter, de créer les conditions de facilitation du travail de l'ITIE sur le terrain, dans les collectivités.
Merci.
Donc nous allons consacrer à cela, faire en sorte que l'ITIE puisse travailler dans des conditions sereines, de transparence, d'impartialité, de liberté, et que l'ITIE soit accompagné effectivement par les collectivités, puisque le travail que l'ITIE fait va dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations, puisque pour accéder aux services sociaux de base, il faut des ressources.
Oui.
Et pour avoir ces ressources, il faut savoir ce qu'on doit avoir.
Oui.
Et effectivement, efficacement, utiliser ce qu'on doit avoir dans le sens souhaité.
Merci bien, monsieur le secrétaire général. C'était la dernière question.
Ouais.
On espère vous revoir dans un autre podcast.
Ouais.
Et vraiment, on est très, très satisfaits. Et je pense que nos visiteurs du site vont l'être aussi.
Ouais.
Et merci une fois de plus.
Merci beaucoup. Merci, monsieur Souma. Ouais.